Eh bien, excellent réveil à tous et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Entre espoir et prudence ce matin sur le front sanitaire, après l'annonce du groupe Pfizer sur l'efficacité de son vaccin à 90%, comment a-t-il été fabriqué et testé? Quand sera-t-il mis sur le marché? Quels pays y auront accès? Réponse dans un instant.
Prudence encore, car le Covid-19 fait toujours des ravages. 551 morts en 24 heures en France, un chiffre record pour la deuxième vague épidémique.
Et le pic est devant nous, met en garde le directeur général de la Santé.
Eux dénoncent un certain laxisme sanitaire. Plusieurs syndicats d'enseignants appellent à la grève aujourd'hui.
On pourrait réclamer une meilleure protection dans les collèges et aux primaires alors que les lycées passent en demi-groupe.
Et puis à la une, à l'étranger, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont signé hier un nouvel accord de cessez-le-feu.
Annoncé par Vladimir Poutine, aussitôt critiqué dans la rue à Erevan. Autre tension au Pérou, cette fois après la destitution du président Martín Vizcarra, accusé de corruption.
Et puis la question du jour, ça sera dans une dizaine de minutes. Catherine Mineur poursuivie pour apologie du terrorisme. Quelles questions éthiques et juridiques? Je les poserai à l'avocate Marie Dauzé.
Les essais ne sont pas terminés, la durée de protection encore indéterminée, que déjà le vaccin annoncé comme efficace à 90% contre le Covid-19 par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech a fait s'envoler les marchés boursiers dans le monde. Il est fondé sur une technologie qui jusqu'à présent n'avait jamais fait ses preuves et le patron de Pfizer explique qu'il n'a pas encore demandé d'autorisation de mise sur le marché pour ce vaccin qui suscite déjà un immense espoir. Tara Schlegel.
Plus de 43 000 patients sont enrôlés dans l'essai, aux États-Unis surtout et en Allemagne, siège de la firme BioNTech, qui est en grande partie à l'origine de l'exploit scientifique que le duo est en passe de réaliser. Sur les 43, 38 955 ont reçu déjà une deuxième injection, mais il faut attendre les résultats, basés sur une observation de 2 mois après cette seconde dose. Résultats qui doivent concerner un nombre suffisamment grand de volontaires. Pfizer pense donc soumettre ces chiffres dans la troisième semaine de novembre. Il faut mesurer que ce candidat vaccin s'appuie sur une technique dite d'ARN messager qui n'a encore jamais été autorisée chez l'homme. 4 vaccins sont commercialisés pour les animaux. De façon schématique, comme toujours pour un vaccin, on veut présenter à notre organisme la protéine spike du SARS-CoV-2 et réveiller ainsi notre système immunitaire. Mais l'idée est cette fois d'amener notre corps à fabriquer cette protéine spécifique lui-même. On injecte donc l'ARN messager, autrement dit la copie du brin d'ADN du virus qui donne la recette de fabrication de cette protéine spike. In vitro, ça marche très bien. In vivo, l'ARN est souvent détruit par notre organisme. Il faut l'envelopper dans des nanoparticules et leurrer nos défenses. C'est visiblement ce qui est parvenu à faire Pfizer. D'autres laboratoires comme Moderna, Sanofi, l'Institut Pasteur travaillent sur la même innovation, mais Pfizer et BioNTech ont visiblement une longueur d'avance. Et surtout, le tandem va pouvoir produire son vaccin à très grande échelle. Dès qu'il sera validé. Donald Trump a déjà déboursé 1,9 milliard de dollars pour acheter ce vaccin-là. L'Union européenne finalise en ce moment l'achat de 300 millions de doses.
La Commission européenne a effectivement conclu des accords ou pré-accords avec 5 autres labos par ailleurs dans le monde, notamment ceux du groupe français Sanofi, allié au britannique GSK, qui travaille sur 2 candidats vaccins bien distincts. C'est un article à retrouver sur franceculture.fr. Mais comment va-t-il se passer ensuite quand l'un de ces vaccins sera commercialisable? Les précisions à Bruxelles d'Angélique Bouin.
Le feu vert pour déployer un éventuel vaccin sera donné par l'Agence européenne du médicament. Elle dit avoir déjà reçu 2 séries de données médicales de la part de l'alliance Pfizer-BioNTech et attend les données cliniques dont les 2 laboratoires ont fait état. Ensuite, si ce vaccin était validé, la Commission en assurera la distribution de façon totalement égalitaire. Les 27 chefs d'État et de gouvernement se sont en effet mis d'accord lors d'une visioconférence fin octobre, comme l'a expliqué sa présidente Ursula von der Leyen.
I have good news. The member states will all get vaccines at the same time and at the same conditions based on their share of the EU population they have. We have already agreed on that.
Chaque État membre définira sa propre politique de vaccination, mais la Commission pousse pour une harmonisation européenne des critères de priorité qui seront décidés, privilégier par exemple les personnes les plus vulnérables et les personnels de santé. Enfin, les 27 ont convenu de communiquer et d'informer leurs citoyens en toute transparence sur d'éventuels effets secondaires de ce futur vaccin, afin, entre autres, d'éviter la désinformation.
Dans la série Finissons-en avec la désinformation aux États-Unis, Joe Biden a plaidé une nouvelle fois pour le port du masque pour éviter la propagation du coronavirus. Ce n'est pas une posture politique, a déclaré le président élu. Il est temps de mettre fin à la politisation des gestes responsables de santé publique, a-t-il martelé hier, alors que de nombreux partisans de Donald Trump rechignent à se couvrir le visage et que le président sortant n'a eu de cesse de minimiser la pandémie depuis son apparition. Joe Biden a également réagi avec prudence à l'annonce par Pfizer dans ce vaccin efficace à 90% qui pourrait être autorisé dans quelques semaines.
Nous venons de recevoir une bonne nouvelle avec l'annonce de progrès pour un vaccin. Il est clair que ce vaccin, même s'il est validé, ne sera pas disponible à grande échelle avant des mois. Le défi reste immense et croissant. Nous nous préparons à un hiver très sombre. Les taux d'infection augmentent, le nombre d'hospitalisations et de morts augmente. D'après les projections, nous pourrions perdre encore 200 000 personnes avant qu'un vaccin soit accessible à tous. On ne peut pas se priver d'un travail important d'ici là pour aider notre pays à traverser la pire vague de la pandémie jusqu'ici.
Joe Biden, traduit par Franck Madvon, notre envoyé spécial aux États-Unis.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. La mesure était prévue avant les vacances de la Toussaint. Elle n'entrera finalement en vigueur qu'à partir de la semaine prochaine. Des tests antigéniques seront disponibles dans les établissements scolaires.
Proposés aux professeurs, aux surveillants, aux personnels administratifs qui sont considérés comme prioritaires, 1 million de tests disponibles, plus rapides que les tests virologiques PCR, et effectués directement sur place dans les établissements par les infirmières scolaires volontaires ou bien par des étudiants en santé ou encore par des associations de protection civile qui viendront leur prêter main forte. Rien n'est prévu pour les élèves car il faudrait une autorisation parentale. Alors que 551 personnes sont mortes du Covid-19 en 24 heures dans notre pays, bilan quotidien le plus élevé depuis le début de la deuxième vague épidémique, les syndicats d'enseignants appellent aujourd'hui à faire grève pour dénoncer le protocole sanitaire mis en place dans les établissements scolaires, des demi-groupes au lycée certes, mais des classes habituelles aux primaires et en collège. C'est ce que dénoncent les professeurs, en particulier en Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de l'Hexagone, qui avait payé un lourd tribut au plus fort de l'épidémie de coronavirus au printemps dernier, Hakim Kasmi.
Si Jean-Michel Blanquer autorise l'hybridation des cours au lycée, avec 50% de distanciel et de présentiel, en estimant qu'au collège l'application du nombrassage des élèves est beaucoup plus facile à appliquer, faux, lui répondent les enseignants comme Benjamin Marolle, professeur d'histoire-géographie au collège de Lintimont de Montreuil, classé en zone d'éducation prioritaire.
Le ministre annonce des chiffres de contamination dans la tranche 10-19 ans et les propres services de l'État, je pense notamment en fait à Géodes Santé Publique, donnent des chiffres tout à fait différents sur la tranche 10-19 ans. On a un problème qui est que les établissements scolaires, comme tous les lieux clos dans lesquels les élèves ont dans une certaine promiscuité, en classe c'est pas le plus embêtant parce qu'ils sont masqués, mais au moment où par exemple ils se restaurent à la cantine du midi, on se rend compte en fait que on a les conditions idéales pour évidemment une transmission accrue du.
Une incompréhension encore plus grande ici en Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France, qui a fait partie des plus touchés par le coronavirus depuis le confinement du mois de mars. Sébastien Marguet, professeur de français dans le collège Travail Langevin, dans la ville voisine de Bagnolet, qui lui aussi sera gréviste aujourd'hui pour dénoncer le manque de moyens et pour demander des demi-groupes.
On est 550 dans un collège prévu pour 400, qu'on a des salles qui sont pas aérables, qu'on a des conditions matérielles sont dégradés, un établissement vétuste, parfois insalubre, et puis on a deux postes d'agents d'entretien qui sont non pourvus à ce jour. Donc pour la désinfection, pour le nettoyage des locaux, du matériel, ça rend la situation très très compliquée.
Pour l'instant, le ministère exclut des modifications du protocole sanitaire au collège et au primaire jusqu'aux vacances de Noël.
L'Assemblée nationale s'empare aujourd'hui du quatrième et dernier budget rectifié pour 2020 avec 20 milliards de dépenses supplémentaires pour aider notamment les entreprises et les indépendants en cette période de reconfinement. Il en faut plus, selon la droite. Les écologistes, eux, réclament un accès à la nature pour tous. Avec le confinement, il est possible de s'aérer pour le plaisir, mais dans la limite d'une heure par jour et surtout à moins d'un kilomètre de chez soi. Or, tout le monde n'a pas d'espace vert dans un environnement proche. Europe Écologie Les Verts veut donc alléger cette contrainte. Antoine Maret.
Europe Écologie Les Verts décerne un bon point au gouvernement qui, contrairement au premier confinement, ouvre désormais les parcs, jardins et autres espaces verts. Mais le parti écologiste voudrait que Matignon aille plus loin. Le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, défend l'accès à la nature pour tous.
Les écolos disent de longue date que les jardins publics sont les jardins de ceux qui n'en ont pas. Et donc il y a une mesure qui nous semble absolument nécessaire, c'est de permettre tout simplement l'accès à la nature et de s'affranchir du fameux 1 km. Cette limite d'ailleurs n'existe pas en matière d'approvisionnement dans les commerces essentiels. Et donc nous considérons que l'accès à la nature est essentiel et donc il faut absolument adapter cette partie du confinement pour permettre cette liberté fondamentale qu'est l'accès à la nature.
Les écologistes seront-ils entendus sur ce point par le gouvernement? La réponse pour le moment est non. Matignon affiche sa priorité, stabiliser les règles existantes du confinement.
Confinement en français, lockdown en anglais, c'est le mot de l'année selon le célèbre dictionnaire Collins. Il résume l'expérience partagée par des milliards de personnes qui ont dû restreindre leur vie quotidienne pour contenir le virus, explique l'institution. C'est sur un ton solennel que Vladimir Poutine a annoncé hier la conclusion d'un accord de cessez-le-feu entre Bakou et Erevan dans l'enclave du Haut-Karabakh. L'Arménie et l'Azerbaïdjan en guerre depuis un mois et demi verront désormais la paix être assurée notamment par des soldats russes détachés sur place. 2000 à contrôler la province. Inacceptable pour des centaines d'Arméniens qui ont manifesté hier soir dans les rues d'Erevan, appelant à la démission du Premier ministre Nikol Pachinian. On y revient dans la revue de presse internationale de Camille Magnard après le journal de 7h30. Détention au Pérou, après la destitution du président Martin Vizcarra par le Congrès pour incapacité morale. Il sera remplacé par le président du Congrès à 6 mois des élections générales. Les explications de notre correspondant Éric Sanson.
Martin Vizcarra est accusé d'avoir demandé des pots de vin pour faciliter la construction d'un hôpital et d'un projet d'irrigation entre 2011 et 2014, alors qu'il était gouverneur de la région de Moquegua au sud du Pérou. Ceux qui l'accusent ont demandé la protection du parquet. Ils affirment avoir reçu l'ancien ministre José Hernández, qui aurait demandé des commissions de quelque 650 000 dollars au nom de Vizcarra. Hernandez aurait également accepté de collaborer avec la justice en échange d'une remise de peine. Le président Vizcarra a nié ces accusations face à un congrès d'opposition qui avait déjà essayé de le destituer en septembre dernier, mais sans succès. 105 députés ont voté pour la destitution, 19 contre et 4 se sont abstenus. Martin Vizcarra.
Aujourd'hui, je quitte le palais présidentiel et rentre chez moi. Malgré les conseils de nombreuses personnes, en tant que Martin Vizcarra, je décide de ne pas m'opposer légalement à cette décision du Congrès péruvien que je désapprouve. Je ne veux pas que l'on croie que ma volonté de service du peuple péruvien n'ait été que le désir d'exercer le pouvoir.
Le président du Congrès, Manuel Merino, deviendra ce mardi le nouveau chef de l'État. Cet entrepreneur agricole du parti centriste Action Populaire restera au pouvoir jusqu'en juillet 2021. Troisième président péruvien en moins de 3 ans, il devra faire face à la pandémie de Covid-19 qui a durement touché le Pérou et organiser les élections générales prévues le 11 avril prochain.
Le temps de ce mardi 10 novembre, assez doux et de plus en plus ensoleillé, sauf en Alsace-Lorraine où le ciel restera gris. Au meilleur de la journée, il fera entre 14 et 18 degrés en moyenne du nord au sud jusqu'à 20 près de la Méditerranée, Guillaume Herner.
Merci Catherine Dutu. 7h13, dans quelques instants, on va évoquer ces mineurs poursuivis pour apologie du terrorisme.